La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Le journalisme est probablement un des métiers les plus passionnants et frustrants qui soit. Il est passionnant parce qu'il permet d'avoir une emprise sur l'actualité, sur le monde tel qu'il va, à travers les commentaires, les chroniques et les éditoriaux qu'on y consacre. Il est facile de s'y sentir au cœur de l'action, d'autant qu'on y est vraiment. Mais c'est aussi, j'en suis certain, un métier terriblement frustrant. C'est un métier de l'éphémère, les textes qu'on écrit durent à peine une journée, et au bout de quelques jours, certainement, il y a de bonnes chances qu'ils soient oubliés. Pour corriger cette injustice, on peut être tenté de les rassembler en un ouvrage à la manière d'une histoire en direct du temps présent. C'est la tentation à laquelle a cédé José Boileau, et on ne peut que s'en réjouir. Son nouveau livre, Avec le recul, rassemble certains, 50 je crois, de ses éditoriaux de 2003 à 2016, auxquels elle ajoute son regard actuel. L'ouvrage permet de retracer une période particulière de notre histoire que j'appellerais, mais ce ne sont pas ces mots, celle d'un long déclin québécois. On y voit notre société se mouvoir, chercher à reprendre pied, mais sans jamais vraiment y parvenir. José Boileau y livre ses analyses et y confesse ses inquiétudes. C'est pour moi aujourd'hui un immense plaisir de recevoir, celle qui s'est imposée comme une des grandes journalistes du Québec actuel pour revenir sur son livre et plus encore sur les thèmes qu'il traverse. José Boileau, bonjour.
Merci, bonjour, Mathieu.
Alors, question première à propos de cet ouvrage dans lequel vous rassemblez 50 éditoriaux
oui, 56,
que vous commentez.
Oui.
En revenant finalement sur l'époque où ils ont été écrits à la lumière d'aujourd'hui, une chose qui m'a marqué tout de suite, c'est vos entrées en fonction en 2003, au moment où commence le gouvernement Charest. Et d'une certaine manière, ce que vous nous proposez, c'est presque un bilan d'une époque qui est celle de la lente sortie du Québec de la Révolution tranquille, lente sortie du Québec du nationalisme aussi, l'apparition d'un nouveau Québec sous le signe pragmatique, et peut-être une perte aussi de l'objet Québec dans l'espace public. Donc, qu'est-ce qui caractérise la rupture de 2003 lorsque vous y revenez? Qu'est-ce qui ressort principalement, finalement, pour vous, de cette rupture importante, finalement, dans le Québec récent?
Moi, j'aime bien la façon dont vous le résumez, effectivement, ce déclin-là. Je ne l'avais pas identifié comme ça, mais c'est vrai qu'il est associé à cette arrivée en fonction, au fond, du gouvernement libéral de Jean Charest. C'est très curieux parce qu'effectivement, le dernier événement que je vais couvrir comme reporter, c'est la campagne électorale de 2003. Et tout de suite, quand on sort de la campagne, donc M. Charest est élu, je deviens éditorialiste. Et ma carrière a été très marquée par M. Charest parce que au moment des élections de 2007, je deviendrai directrice de l'information au Devoir. Bon, après ça, 2009, rédactrice en chef. Donc j'ai beaucoup collé à ce gouvernement-là. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a le plus surpris quand je suis retournée dans mes éditoriaux. C'est de voir que quand M. Charest arrive, il y a quand même une envie de brasser des choses au Québec et j'estime que c'était parfaitement légitime. On avait vécu la Révolution tranquille, elle avait eu ces personnages qui vont rester dans l'espace public, M. Lévesque, les gouvernements péquistes, M. Bourassa, c'était des gens qui étaient aussi présents déjà dans notre horizon des années 60, début des années 70. Donc, M. Charest avec lui, il y a une coupure et ce qu'il veut, c'est réinventer d'une certaine manière le modèle québécois, ce qui était tout à fait intéressant à prime abord. Et c'était pas lui qui apparaissait à ce moment-là comme la personne la plus à droite ou le diable au Québec qui allait faire tout rafler, tout mettre à terre. C'était plutôt l'ADQ de Mario Dumont. Donc, M. Charest semblait l'homme qui était prêt à brasser des affaires, mais pas à tout jeter du modèle. Et c'est ça qui va se détériorer avec les années. Et on va rentrer dans une ère plus cynique, plus affairiste. Et ce qui va faire que peu à peu, nos repères collectifs vont être profondément ébranlés. Et c'est au fond ça qui ressort quand je termine, moi, l'éditorial au Devoir en 2016, quand je quitte le Devoir. C'est un peu une espèce de tristesse de voir où en est le Québec aujourd'hui.
Oui, ben c'est ce qui ressort, effectivement. C'est-à-dire, et dans l'éditorial que vous évoquez, le sentiment comme si le Québec était en train de se perdre lui-même. Vous évoquez, il y a des questions très importantes qui traversent le livre. Ce qu'on pourrait dire la question nationale en général, mais plus encore peut-être la question du français.
Oui.
La question, comme si la question du français était le premier marqueur qui permet ensuite d'avoir une question nationale. Or, c'est pas, ça arrive pas jour après jour, mais au total, vous notez une perte d'inquiétude, d'intérêt pour
question
du français.
Totalement.
À quel moment sentez-vous ce moment de bascule et comment surtout expliquez-vous ce passage du rêve d'un Québec français à un Québec bilingue?
On serait tenté de parler de mondialisation, mais je dirais plutôt une indifférence des élites. Elles nous ont trahis d'une certaine manière, les élites. La Révolution tranquille, elle avait permis aux francophones d'enfin prendre leur place dans ce Québec qui était dominé par les anglophones. Et y avait donc une lecture de se dire, au-delà de la religion, comment pouvons-nous prendre notre place autrement. Bon, c'était l'État, mais on a aussi favorisé l'émergence, bon, on le sait, d'une classe d'un Québec Inc. Et ces gens-là n'ont pas eu de reconnaissance collective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu quels étaient les atouts du Québec. Les atouts du Québec, oui, c'est un modèle différent par rapport à la manière de gérer la collectivité. Et il y a tout ce côté d'attachement au français, de croire que cette langue-là, elle est indispensable pour notre survie en tant que population distincte. Je sais bien qu'en France, on est très anglophile maintenant, tout le monde entier le sera, fort bien pour eux. Mais pour nous, il y a là d'avoir une conscience historique de ce que l'on est et de pourquoi on veut survivre. Et moi, le grand moment où j'ai eu ce frisson-là de me dire, mais qu'est-ce qui peut en rester? J'aime beaucoup la chanson Mommy. Bon, on peut sortir les classiques de la chanson écrite par chez Marc Gélina. Mais ce que j'étais au 100e anniversaire du devoir en 2010. Et donc, il y avait eu une messe qui avait été tenue à l'église Notre-Dame pour rappeler le grand discours d'Henri Bourassa en 1910 lors du congrès eucharistique international.
Devant Mgr Bourne, je crois.
Exactement, pour rappeler, parce qu'à ce moment-là, l'église était tentée, pour avoir plus de fidèles, de se tourner vers l'anglais, là je résume. Et Henri Bourassa avait fait un discours fantastique pour par état, la nécessité de sauver, bon, la foi, c'était assuré, mais de sauver la langue. Et j'écoutais ce discours-là et je me rendais compte, 100 ans plus tard, qu'on avait perdu la foi comme repère collectif, mais que quelle garantie avions-nous que nous n'allions pas perdre la langue quand on voyait à quel point les Québécois comme individus se sont laissés persuader que le bilinguisme individuel, qui est une force, est tout aussi important pour une collectivité alors que c'est un reniement de 300 ans d'histoire, de 400 ans. C'est moi là, ça me dépasse. Alors je trouve ça intéressant, si je peux me permettre une petite pointe de politique actuelle. Je me suis réjouie hier soir de voir qu'on avait une mairesse à Montréal. Bon, je suis féministe, elle a des idées de proximité avec la population qui moi me plaisent bien, mais par ailleurs, c'est pas un blanc-seing, parce que Montréal, les politiciens ont décidé dorénavant que c'était une ville bilingue et qu'il y a toutes sortes d'assurances à donner aux anglophones. Je ne comprends pas. Et ça, à cet égard-là, Valérie Plante, elle est comme M. Coderre et elle est comme beaucoup de politiciens montréalais. Ça, pour moi, c'est un recul.
Alors, vous dites le mot recul. Tantôt, je proposais celui de déclin.
Oui, déclin aussi. Ouais.
Le déclin, alors, c'est il y a différentes manières de le penser, probablement, mais dans le cadre du Québec, me semble-t-il, le déclin, c'est l'éloignement progressif de ce qu'on pourrait appeler les idéaux et les accomplissements de la Révolution tranquille.
Ouais.
Donc, on pourrait dire que des années 60 jusqu'au milieu des années 90, en fait, probablement au référendum, il y a une forme d'élan collectif avec des bons jours et des mauvais jours. Et ce qu'on constate lorsqu'aujourd'hui, il y a une mélancolie québécoise, lorsqu'il y a une nostalgie québécoise, ce n'est pas la nostalgie du Québec des années 50, des années 40, des années 30, c'est la nostalgie du Québec des années 60, 70, peut-être pas 80, mais certainement 90. Et j'ai l'impression que cette mélancolie traverse votre ouvrage, à la fois quand vous écrivez les textes d'origine, mais aussi quand vous les commentez, vous sentez qu'il y a quelque chose comme une perte.
Oui.
Et c'est cette perte que j'essaie de nommer. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a échappé? Qu'est-ce qu'on a oublié? Quel fil avons-nous égaré?
Je dirais le sens de la collectivité, le sens d'un « nous ». Ce nous-là, il s'est exprimé de différentes manières dans notre histoire. Il s'est exprimé dès les débuts, il s'est exprimé après la conquête, il s'est exprimé avec les rébellions de 1837-38, il s'est exprimé autrement la Révolution tranquille, il pourrait s'exprimer autrement aujourd'hui. Et même après le référendum de 95, Lucien Bouchard, le premier ministre, avait à l'époque décidé quand même de tenir un sommet où il a été convenu du déficit zéro. On peut être pour et contre, le point n'est pas là. Mais il y avait quand même un sommet où collectivement nous nous sommes parlé. Il y a eu des gens qui étaient dissidents, ils sont sortis, mais bon. Il y avait cet exercice collectif-là. Ça, pour moi, ça n'existe plus. On a eu un gouvernement libéral, des gouvernements libéraux successifs qui ont décidé de nous sortir de cette façon collective de fonctionner. Et je pense que ça a eu des répercussions parce que déjà, on est dans des sociétés où la montée de l'individualisme, elle est très forte. Donc, on a démembrer le nous de toutes sortes de manières, là. Autant travailler économiquement en région que de trouver ça important de se rassembler pour le français, de chercher à inclure les immigrants. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Je vais vous, quand, par exemple, on va décider, dans les années 60, de créer une instance qui s'appelle les COFI. Les COFI, c'est pas un gouvernement péquiste qui a créé ça. C'était un gouvernement libéral. On est à la fin des années 60. Et on décide que pour intégrer des immigrants, il faut leur présenter la société québécoise dans son entier. Bon, ça a été démembré par un gouvernement péquiste par ailleurs. Mais c'était ce lieu-là. On envoyait les immigrants, oui, suivre des cours de français dans les écoles, bon, des formations spécifiques, mais ce grand tout-là qui était l'idée qu'on va vous présenter le Québec, non pas seulement comme une langue à apprendre, comme outil de communication, parce que ça va aller mieux pour vous autres dans la vie, mais il y avait une société derrière ça et une culture. Bon, ça, on l'a enlevé. La loi 101 cherchait à avoir ce nous collectif-là. Maintenant, on a renoncé à ça. Et c'est là, je mêle beaucoup de choses, là. Je vous parle de collectivité économique, je vous parle de culture, je vous parle de langue. Mais pour moi, le français, maintenant, c'est devenu... Elle est où la langue de la culture avec le français? Je trouve ça très troublant que... un exemple très concret. J'ai une maison à Lac-Mégantic. En 2013, cette tragédie épouvantable d'un train qui va faire mourir un centre-ville et faire mourir concrètement 47 personnes. Lors de la messe commémorative, un an plus tard, les jeunes de la chorale de Lac-Mégantic, qui est unilingue comme ville, là, mais vraiment là, profondément unilingue, comme beaucoup de villes du Québec, c'est pas un péché.
Comme c'est généralement le cas dans tous les pays du monde.
Ben oui. Et donc, vont chanter en anglais la chanson de John Lennon, Imagine, alors que, pourquoi pas Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour? Je comprends pas. On est, et ce réflexe-là dans les écoles, j'ai 4 enfants, ils sont maintenant très grands, mais j'en ai fait là, des petites fêtes de fin d'année, puis des fêtes de Noël, puis des fêtes... En maternelle, on chante encore en français. Dès que les enfants sont en première année, si on leur laisse le choix, ils chantent en anglais. La chanson n'est plus un repère. Moi, dans notre histoire collective qui s'étend sur des années, je trouve qu'il y a là des indices troublants de, j'appelle ça un recul, vous appelez ça un déclin, mais au fond, on parle de la même chose. Ça veut dire que ce n'est plus intégré à ta vie collective.
Il y a dans l'ouvrage une autre manière de nommer la chose. On pourrait dire qu'il y a eu au Québec, à travers notre histoire, bien que ça soit donné de différentes manières, un désir de singularité québécoise.
Oui.
C'est-à-dire le désir de ne pas se laisser absorber par le continent, non pas parce qu'on le rejetait en soi, mais parce qu'on croyait que nous avions un point de vue original sur le monde, la légitimité d'un point de vue québécois. Et ce qui se perd, encore une fois, en vous lisant, à la fois, par exemple, sur la question du modèle social québécois, mais aussi dans le rapport au patrimoine et aussi dans le rapport à la question nationale, c'est ce désir de singularité. Est-ce que nous serions arrivés à un moment où, finalement, cette singularité que nous portions comme une médiation vers l'universel, l'apportons-nous désormais, selon vous, comme un fardeau?
On dirait bien que oui. Je suis très... J'ai de la misère à répondre parce que je me dis peut-être qu'on a eu tout faux sur notre analyse du Québec. Je lisais récemment un essai, l'essai de Mathieu Bellil, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous amène une vision du Québec qui est autre. Donc, le Québec est le triomphe de la vie ordinaire et puis ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à relever de grands défis. Moi, dans mon livre, je fais état d'une réflexion qui me trouble aussi. On a une mythologie du Québec très terrien, la terre, s'est installée, mais on a aussi ce Québécois nomade. Céline Dion qui, oui, transporte le Québec à travers le monde, c'est-à-dire qu'elle transporte des Québécois à travers le monde, mais transporte pas le Québec. Les Québécois qui vont en Floride, c'est la même chose. Donc, ce côté, est-ce que on est vraiment les deux pieds dans la terre ou on fait juste survoler la terre? C'est ça là, que je me pose comme question. Qui sommes-nous vraiment? Est-ce que vraiment on a été nourri par une mythologie qui est en train de tomber? Puis foncièrement, c'est pas ça qu'on était. Une mythologie peut-être effectivement nationaliste, nourrie par Lionel Groulx et tout un regard... qui était aussi porté par l'Église. C'est peut-être ça qui se désagrège. Peut-être qu'on s'est raconté des histoires. Mais en même temps, mon problème, c'est que moi, je l'aime, cette histoire-là d'enracinement. Puis je me dis, est-ce qu'on est si peu nombreux à y croire, à y avoir cru et à y croire encore? J'ai pas de réponse sur où est-ce qu'on va, mais là, j'ai l'impression qu'on se rend plus compte que c'est quand même pas si mal aussi d'avoir des racines dans un endroit puis d'essayer de préserver ce monde-là. Puis ce que je trouve troublant aussi, c'est qu'on a toujours dit que nos influences, elles venaient du fait que nous étions d'origine française avec les Britanniques et puis mon terre nord-américaine et puis les Amérindiens, tout ça. Mais on s'est coupé de cette source française-là. Et ça, c'est peut-être ce qui explique actuellement l'écueil qu'on est. On a décidé qu'on était maintenant très américain. On redécouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le côté amérindien, fort bien. Mais tout notre lien avec la France, le lien culturel, notre lien historique, notre lien de communion linguistique, ça, la jeune génération, là, elle méconnaît ça totalement. À qui la faute, je sais pas.
Moi, je vous en suggère une faute possible, un coupable possible. Dans votre livre, c'est pas une hypothèse que vous avancez, mais explicitement, mais elle est partout présente en quelque sorte. Est-ce que bon, vous arrivez en 2003 comme éditorialiste, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la fin des gouvernements péquistes, c'est-à-dire et des gouvernements péquistes qui appartiennent à la continuité du Québec référendaire, c'est-à-dire En 2003, on peut encore croire qu'on va être dans l'alternance, puis un jour les péquistes reviendront au pouvoir, puis ils feront un référendum un jour, et comme si l'histoire se répétait toujours. Est-ce que, de ce point de vue, on ne peut pas dire que 2003, ça marque le début politiquement de la dislocation de la question nationale? C'est-à-dire, jusqu'alors, elle était le schéma dominant de notre vie politique. Un an avant votre arrivée en poste, rappelez-vous, c'est la montée de l'ADQ, c'est l'apparition du débat gauche-droite, c'est le fait que le péquisme, les péquistes soudainement, ou les souverainistes semblent un peu décoller des questions que les Québécois se posent. Autrement dit, est-ce que cette espèce de ressort brisé peut-être du Québec, est-ce que c'est pas l'autre nom des conséquences psychologiques et existentielles de l'échec de l'indépendance?
Ben, c'est sûr que 95 après 80, ça a été une claque. Il y a des gens qui croyaient profondément. Et je continue de croire que de manière latente dans la société québécoise, cette division-là en deux du Québec reste. Que foncièrement, les partisans de l'indépendance du Québec sont pas nécessairement profondément moins nombreux qu'autrefois, que s'il y avait un référendum qui arrivait sur la place publique, un peu comme quand M. Parizeau avait décidé de reprendre le bâton du pèlerin après 80, donc on pourrait rebrasser des affaires. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir des gens qui portent ce discours-là de façon autre qu'électoraliste. Je pense qu'il y a même chez les jeunes, et là, je suis peut-être parce que je suis entourée de jeunes qui croient et qui ne cessent de me dire, tu sais, moi, 95, j'étais pas là, à un moment donné, là, votre défaite, c'est votre défaite, mais la vie est pas finie, là, puis les choses peuvent revenir. Et ces jeunes-là, qui se sont d'ailleurs beaucoup ralliés autour de Jean-Martin-Hossan en 2012, ils existent, et ce sont des jeunes influenceurs. Sauf qu'il y a comme plus d'espace pour leur donner une voix ou leur donner envie de s'investir dans la vie politique, beaucoup parce qu'on est beaucoup dans le petit électoralisme. Le Parti québécois a décidé longtemps, et on peut comprendre pourquoi, parce que si on veut référendum, encore faut-il qu'il y ait un parti souverainiste au pouvoir. Mais il a très, 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 très longtemps décidé qu'il était le seul parti qui pouvait porter ce projet-là, alors que moi, j'ai toujours vu qu'il y avait des gens, par exemple, très, très à gauche, qui se reconnaissent pas depuis 30 ans dans le PQ. Ça n'a rien à voir avec les débats actuels, mais qui croyaient quand même, si on leur posait la question, qu'ils sont pour la souveraineté. Donc le PQ a fait preuve d'énormément de maladresse dans ce dossier-là. Quand arrive Québec solidaire, il y a des porteurs à l'intérieur de ce parti-là qui croient aussi à l'indépendance, mais aussi sont tombés dans la petite politique parce qu'il n'est pas question de s'associer au méchant Parti québécois, parce que Péladeau trop à droite, parce que Lisée je sais pas quoi, ça, je pense que ça vient beaucoup décourager tous les nationalistes, les indépendantistes qui, comme moi, sont là à regarder ça en disant non, mais est-ce qu'on pourrait s'élever dans le débat parce que c'est d'un pays dont il est question? Vous vous chicanerez après sur votre petite politique partisane. Et ça, je trouve ça très décevant. Ça, je trouve que ça nourrit le cynisme. Parce qu'en même temps, parce qu'à chaque fois que j'écris, et vous devez vivre la même chose puisque vous êtes beaucoup dans ces questions-là. Chaque fois que j'écris sur ces questions-là, du Québec nationaliste, le Québec qui peut se choisir, le Québec, je reçois plein d'appuis. Et les gens écrivent en disant, je me pensais seule et finalement, je ne suis pas. Bon, mais on est une gang de tout seul, on est nombreux, là. On est nombreux et c'est pas vrai que ça n'existe plus. Ça fait. Mais le problème, évidemment, c'est que pendant que les souverainistes se perdaient dans leur petite chicane et que les gens sur le terrain se sentent abandonnés, le discours fédéraliste, lui, s'est raffermé. Lui, eux ont compris qu'il faut toujours se tenir debout dans ce dossier-là. Et ça, ça devient difficile parce que là, tu as vraiment une force en face de toi qui ne laisserait plus rien passer. Et ça, je trouve qu'on le mesure dans le camp souverainiste, je trouve qu'on mesure ça très, très mal, cette cohésion des forces fédéralistes pendant que les souverainistes se chicanent.
Donc, de ce point de vue, pour vous, la question nationale est moins aujourd'hui, disons, en décomposition qu'en dormition. Mais vous sentez que, parce que je me permets d'insister un peu sur ce thème-là parce qu'il est très important. Donc, d'une certaine manière, elle pourrait renaître si des forces politiques parvenaient à la canaliser.
Je crois que oui. Parce que quand on regarde l'ensemble des problèmes qui se posent au Québec présentement, mais il n'y a que la souveraineté qui permettrait d'y faire face convenablement pour ne pas se faire imposer des choix, des visions de société. Ça reste toujours d'avoir les pouvoirs, le pouvoir de choisir. Et plusieurs de nos débats actuels ont lieu parce qu'on ne contrôle pas la situation. Est-ce qu'on doit tout de suite parler de laïcité? On se lance-tu dans la laïcité?
Ah, mais j'avais prévu. Me lance. Ben, allez-y, avec grand plaisir.
Non, mais je trouve que ça en est un bel exemple, OK? Donc, on patauge dans cette question-là. Les libéraux ont une façon de voir. Il y en a d'autres, en fait, on ne sait plus trop qu'est-ce que tout le monde a comme façon de voir, mais reste que même les libéraux sont arrivés avec une loi 62, bon, sur le fait d'interdire le visage découvert. Ils le font avec une maladresse totale.
Une loi qu'on pourrait dire, par ailleurs, minimaliste.
Oui, oui, tout à fait. Mais très, surtout très maladroite, très, très maladroite. Mais sauf que même cette loi-là, ils ne la contrôlent pas, puisque c'est pas eux qui ont l'enjeu, se décidera à Ottawa. Voyez, pour une chose aussi simple que de savoir si on va interdire la burqa, le niqab, le visage couvert dans la société québécoise, une décision prise par beaucoup d'autres pays à travers le monde, mais même ça, on n'a pas le pouvoir d'en décider.
Alors, je vous entends très bien, mais je poserai la chose un peu autrement. Quand on a, à la fin des années 80, les débats linguistiques, puis on a abouti à la loi 178, oui. La loi 101 est déconstruite morceau par les tribunaux fédéraux. Pour l'essentiel, au Québec, ceux qui s'opposent à la loi 101, c'est Alliance Québec, ce sont les lobbies anglophones et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, et sinon il y a le Canada anglais qui nous fait l'habituel procès en racisme. Oui. Cela dit, ce procès en racisme, ce procès en xénophobie, sur les questions liées à la laïcité que vous évoquez, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui intériorisé par un segment de la société québécoise, peut-être chez les plus jeunes, chez certains souverainistes, quelquefois paradoxalement, qui sont plus durs à l'endroit du Québec que Mordecai Richler ne l'aura jamais été. Ouais. C'est-à-dire, le procès en racisme, il est aujourd'hui intérieur à la société québécoise. C'est du Québec bashing made in Québec.
Oui, mais là, c'est intéressant ça. Parce que il y a un côté de se dire on a intériorisé, puis parfois, on peut se demander s'il n'y a pas aussi notre façon de communiquer ces fameux réseaux sociaux. J'étais il y a deux semaines à une conférence sur le 10e anniversaire de la commission pour Sean Taylor et il y avait un des conférenciers qui disait si on avait tenu un référendum, parce qu'on dit qu'au Québec, on a bien géré le référendum, on s'est chicané, mais bon, ça n'a rien à voir avec nos grands déchirements actuels. Mais nos grands déchirements actuels sont très alimentés parce qu'on mange chicane sur les réseaux sociaux et probablement que si on faisait un référendum, on n'aurait pas ce côté chicane
civilisé.
Au sein de la civilisée. Exactement. Alors, ça me fait rappeler, pardon, qu'en 1980, moi, j'étais au cégep, j'étais dans un cégep, André Laurendeau, où vraiment le marxisme-léniniste était extrêmement présent chez les professeurs. C'était un des derniers cégeps où c'était aussi présent. Donc, je vis ça, on est en 80, et il y avait ce mouvement, donc, qu'il faut voter non au référendum de la part de gens qui, très progressistes, mais bon, il faut aller au-delà des frontières, puis travailleurs de tous les pays, nuissez-vous, etc., etc., puis on allait se diviser, etc. Mais on n'avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. Et je me dis, ces gens qui étaient quand même, évidemment, que c'était des professeurs, des gens très articulés, s'ils avaient eu la prise de parole publique qui est possible aujourd'hui, peut-être que ça aurait été encore pire comme façon de se lancer des roches et de se tirer des noms. Donc, c'est pour ça que quand on voit nos débats actuels, est-ce qu'au fond, encore là, je reviens à l'idée, est-ce que tout ça n'était pas déjà préexistant, mais n'avait pas d'endroit où être évoqué? Ou encore, est-ce que vraiment la société a profondément changé? Je le sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que on a des drôles d'analyses de ce que l'on est maintenant. C'est comme si on n'arrivait plus à accepter qu'on puisse avoir, on prône l'individualisme, on n'arrive plus à croire qu'on puisse avoir une singularité collective.
Oui, ou elle-même, elle se fait dissoudre quelquefois dans une forme d'américanisation conceptuelle du Québec. Ouais. Quand on voit les débats sur le racisme systémique et tout ça, on a quelquefois l'impression que ce sont des concepts élaborés dans les universités du sud des États-Unis qui sont plaqués sur le Québec, qu'il n'est plus capable d'avoir ses propres concepts pour se penser.
Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que là, je vais vous amener complètement ailleurs, parce que j'étais quand même patronne de presse. Alors, vous savez, il y a tous ces grands penseurs de que deviennent les médias. Bon, c'est très gentil, mais leurs modèles sont toujours américains. Or, on le sait qu'au Québec, les gens ne consomment pas les médias comme le font les Américains. On a un autre rapport. Le groupe québécois, TVA, ils ont compris ça depuis tellement longtemps. C'est pas vrai. C'est toute l'analyse, bon, la télévision, c'est plus bon. Mais 92% des Québécois écoutent encore la télévision chaque semaine. Le dimanche soir, le Québec se sépare en deux. Il y a ceux qui écoutent La Voix, puis il y a ceux qui écoutent Tout le monde en parle. C'est pas vrai que c'est en train de s'éteindre. Peut-être dans certaines sociétés, mais analysons notre société comme elle est. Arrêtons de plaquer. Alors donc, moi, je l'ai beaucoup vécu sur la sphère médiatique, mais c'est tout à fait vrai, comme vous dites, il y a des rapports entre hommes et femmes aux États-Unis ou entre noirs et blancs qui sont à certains égards, particulièrement noir et blanc, catastrophiques, mais qui appartiennent à l'histoire de ce pays-là. Au Québec, on ne vit pas ça de la même manière. Prenons la question de l'immigration. Je trouve ça très agaçant qu'on dise « les Noirs ont toujours été présents ». Non, non. Il y avait des Noirs au Québec à la fin du 19e siècle, certes, mais leur immigration importante arrive après la Deuxième Guerre mondiale.
Avec les communautés haïtiennes.
Il faut faire ces distinctions-là. Sinon, on n'est pas capable d'analyser les problèmes. Donc, c'est pas vrai que nous sommes une nation multiethnique depuis des centaines d'années, puis on nous l'a toujours caché. Non, nous sommes encore 78% de Québécois de souche au Québec. Et des villes où à 95%, il y a des deux souches, là, le Québec en est plein. Puis c'est pas grave.
Mais on présente ça comme une pathologie, souvent.
Exactement. Alors que c'est pas, l'analyse n'est pas celle-là. L'analyse, il faut voir qu'il y a une immigration récente. On a beaucoup utilisé l'immigration pour noyer, par ailleurs, les Canadiens français.
C'était la formule de René Lévesque.
Mais oui, mais c'est ça. Mais sauf que, donc, c'est pour ça que quand on accueille, c'est pas vrai qu'on accueille dans une société multiethnique. C'est une société francophone qui accueille, qui a des valeurs, qui a des particularités et on ouvre les bras pour que les gens se joignent à ça. On n'ouvre pas les bras pour que les gens se joignent à une société multiethnique où chacun conserve sa petite manière de fonctionner. Ça, c'est peut-être bon pour le reste du Canada qui naît d'une autre façon. Mais pour le Québec, c'est pas ça. Et je trouve qu'on fait des... Et puis, tous ces amalgames-là se font notamment sur la base d'une comparaison avec les États-Unis. Elle est fausse, cette base-là.
Alors, José Wallou, nous allons passer à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour la deuxième partie de notre émission à la Vie des idées avec José Wallou pour son livre « Avec le recul ».
Vous êtes à l'antenne de Radio-VM.
Chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées pour l'entretien avec José Boileau pour son livre « Avec le recul », dans lequel elle revient sur qui rassemble 56 éditoriaux publiés depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui et sur lesquels elle revient ensuite en jetant un regard critique finalement sur l'époque dans laquelle elle était plongée, dans laquelle elle baignait et où elle critiquait, chroniquait, où elle intervenait. José Boileau, on parlait de la question de la laïcité et vous en parliez d'une manière qui est celle d'un souci du collectif.
Oui.
Vous évoquiez le rapport aux Français en rappelant la nécessité de la prédominance de la culture de la majorité historique francophone au Québec. Vous avez un rapport de la souveraineté qui est ancré dans l'histoire et alors on pourrait poursuivre ce portrait, on le poursuivra. Je vais vous poser une question avec le demi-sourire, mais vos positions qui sont celles d'une femme qui se veut de gauche, et très important quand on est de gauche, c'est d'abord parce qu'on veut être de gauche, mais se pourrait-il que malgré vous, parce que la gauche est devenue autre chose au fil des ans, puis on y arrivera même sur la question du féminisme, parce que la gauche est devenue multiculturaliste, plus individualiste, relativiste quelquefois, se pourrait-il que malgré vous, vous soyez devenue plus conservatrice que vous ne pensiez l'être, ou à tout le moins, se pourrait-il qu'on vous voit comme plus conservatrice aujourd'hui que vous ne l'êtes probablement au fond de vous-même ou que vous ne l'étiez traditionnellement?
Oui, alors ça, c'est très, très curieux parce qu'évidemment, moi, je continue. Peut-être, tu sais, pour être plus honnête, là, peut-être centre-gauche, hein, parce que à un moment donné, il y a comme un souci, j'allais dire, de réalisme. Par exemple, j'ai été patronne. Bon, alors là, tout à coup, on se met à relativiser certaines choses. Mais en même temps, je garde des principes que j'estime progressistes. Sauf que je suis pas sûre que ma famille progressiste trouve encore que je fais tant que ça partie de la famille. Tu sais, peut-être que je suis moins la sœur, plutôt la cousine, je sais pas, mais je sens encore là un éloignement qui est vrai et non. Parce qu'il y a toujours le côté, les gens qui parlent, et puis les gens, ben ça, c'est les réseaux sociaux nous permettent de le voir, là, qui vous envoient des j'aime sur Facebook, et puis qui disent, ah, je vous appuie, vous dites ce que je pense, et puis on voit bien que ces gens-là, ce sont des gens quand même articulés. Mais il y a dans l'espace public, c'est vrai que parfois, je me sens classique, une gauche classique, en tout cas, qui est pas la gauche à la mode. Et je trouve ça troublant parce qu'il me semble que sur certains sujets, la gauche s'égare. Et je le ressens particulièrement. J'allais dire en matière de féminisme, mais je veux quand même faire une petite pause, une petite parenthèse avant d'arriver au féminisme. Toute la question des pauvres. Je le dis dans le livre, moi, je trouve ça troublant. Les pauvres, ils n'existent plus au Québec. Et je viens... Oui. Ou la vie ordinaire. Je vais vous donner un exemple concret. Je viens de lire le roman du prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, dont je parle. J'ai une chronique ici littéraire, je vais en parler dans deux semaines, qui raconte la vie d'un homme à Istanbul entre 1969 et 2012. Ce qui est fascinant dans ce livre-là, un détail, c'est que le monde regarde la télévision là-dedans, le roman en est plein. T'as 700 pages, là, pis c'est du monde ordinaire qui vit dans un bidonville, il achète une télé, il écoute les émissions. T'sais, le roman, on est dans la vie ordinaire.
Bien sûr.
Je fais du roman québécois, j'ai une chronique au Journal de Montréal, je fais du roman québécois. La télévision n'existe pas. La vie, celle comme les gens la vivent, où ils regardent la télé, où ils sont endettés, on le sait, les chiffres sont là, où ils ont de la misère à payer ils sont inquiets, ils perdent un contrat, ils perdent leur emploi, ils ont de la misère, ils se demandent comment ils vont payer. Je parle pas du monde sur l'aide sociale, là, je parle pas de la marginalité, juste dans ma vie ordinaire. Ça, c'est devenu absent. Et ça, je trouve que, comme femme de gauche, je trouve ça préoccupant de voir que ces gens-là, qui sont extrêmement nombreux, n'existe plus, où la classe moyenne, vraiment moyenne, là, qui gagne 50 000 par année à deux, là, il n'existe plus, OK? On n'est pas là. Alors ça, ça me préoccupe beaucoup. Et l'autre aspect où je trouve que la gauche s'égare, c'est au niveau du féminisme. Il y a des belles batailles actuellement dans le féminisme. Je trouve ça intéressant que les jeunes femmes, toute la question des agressions sexuelles, elle est extrêmement intéressante parce que toute femme, même si elle n'a pas été agressée, a eu peur de l'aide dans sa vie et a peur dès qu'elle est le seul le soir en un endroit, ça te passe par la tête. Ça fait partie d'intégrer. Et c'est vrai que les jeunes ont raison de nous dire ça n'a pas à l'être. Ça, je trouve ça, que ce soit nommé, que ce soit dit, qu'on essaie d'établir des rapports plus entre les hommes et les femmes, je trouve ça bien. En même temps, il y a une acceptation de toutes sortes de comportements qui nient l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas capable, par exemple, d'entendre l'expression travailleuse du sexe. Ces femmes-là sont des exploitées du sexe. C'est pas des travailleuses.
Vous revenez dans le livre, d'ailleurs, sur la question de la prostitution.
Oui, parce que ce sont des débats qui, dans le mouvement féministe contemporain, sont très présents. Et il est très facile d'être classé de droite si tu n'emploies pas l'expression travailleuse du sexe. Je comprends pas, alors que pour moi, c'est une des très grandes exploitations des femmes dans toute l'histoire des femmes. C'est le déni de la sexualité saine des femmes.
Mais est-ce que vous n'y voyez pas, cela dit, la tendance propre d'une gauche qui n'est peut-être plus la vôtre, mais qui est peut-être dominante, c'est-à-dire où on nous dira que la femme porte le niqab ou qu'elle soit travailleuse du sexe, pour peu qu'elle le désire, c'est une forme d'émancipation. Et de ce point de vue, un certain féminisme n'est-il pas devenu simplement un individualisme ultra qui légitime tout, pour peu que ça se réclame de la subjectivité, du droit de...
Ben, du droit de, et du fait qu'il suffit qu'une femme dise « voici ce que moi je souhaite » pour que, parce que c'est une femme qui le dit, ça devient légitime. Je trouve ça inacceptable. Je pense qu'il y a des grands principes sur l'exploitation des femmes, sur le droit d'être dans l'espace public. Je trouve ça important... par exemple, que les femmes soient élues, pas parce qu'elles sont meilleures, c'est pas de l'essentialisme, c'est simplement parce que dans notre société, moitié homme, moitié femme, il est tout à fait normal que dans les postes où on représente la société, on voit des femmes. Par ailleurs, pour moi, il est très clair qu'il y a des hommes qui peuvent être bien plus intéressants que des femmes et qu'on peut voter pour des hommes. Vous voyez, c'est pas, le point est pas là, c'est simplement qu'on puisse voir et que les femmes ont des ambitions et que arrêtons de leur mettre des bâtons dans les roues et laissons-les aller vers ça. Bon, ça c'est une chose. Mais tout ce qui est le côté, puisqu'une femme veut porter la burqa, laissons-la faire et nous n'avons pas à la juger. Je m'excuse, je prétends avoir le droit de juger puisque nous sommes là devant un symbole d'inégalité profonde où là, on veut cacher la femme, cacher le corps des femmes. Et je trouve ça... Je pense que les principes dans la vie ont leur importance. Et ce n'est pas parce que par exemple, Mathieu, je vous trouve sympathique, qu'on peut pas avoir un désaccord sur des questions de principes. Ça n'a rien à voir. Moi, quand j'étais plus jeune, on est dans les années 60, on est encore dans le discours sur une femme qui a des enfants, faut qu'elle reste à la maison. Je trouvais ça que c'était inacceptable parce que si les hommes qui avaient des enfants avaient le droit d'aller travailler, une femme devait pouvoir faire la même chose et on devait l'encourager à se faire. Ça voulait pas dire que ma mère qui est au foyer, mes tantes qui est au foyer, mes amis, j'ai des amis qui sont au foyer, que je les aime pas, je suis pas capable de leur parler, c'est pas ça. Mais sur le principe, j'ai un désaccord profond. Et je pense qu'il est légitime de l'exprimer plutôt que de dire « je ne l'exprimerai pas parce que je risque de blesser ces gens que
avec
j'aime beaucoup. »
Avec des propos offensants selon la formule
oui,
contemporaine.
Oui, c'est ça. Et on peut avoir des désaccords de principe et de dire « je suis contre, burqa niqab, mais moi c'est encore plus parce que je suis même contre le port du voile comme représentation dans la fonction publique. »
Bien sûr.
Donc, je trouve que l'État a droit à afficher une certaine neutralité et une neutralité certaine même. Donc, je suis très, à ce moment-là, républicaine, française, et je trouve pas ça effrayant de le dire, là. Mais ça, c'est très mal perçu parce que on ne veut plus voir les symboles de nos jours. On veut juste voir la personne, elle est fine ou elle est pas fine. Et moi, je dis non. Par exemple, je me rappelle le tout premier numéro dans les années 70 que j'avais acheté de La Vie en rose. Ça s'appelait Nous sommes contre les hommes. Écoutez, moi, je suis hétérosexuelle, j'aime les hommes, j'ai des fils, j'ai des amis gars, tout ça. Sauf que ce titre-là m'avait provoqué parce que ce qu'il dénonçait, c'était pas... D'ailleurs, il y avait un texte qui disait bien « j'aime mon chum, j'aime mon frère, j'aime mon père, j'aime mon cousin, j'aime mon ami, j'aime mon voisin, mais le système patriarcal, je le dénonce. » C'était ça qui était... Bon, derrière cette formule choc-là, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'aime beaucoup de monde, mais il y a des systèmes que je dénonce et il y a des systèmes qui sont de profonde inégalité envers les femmes et il faut les dénoncer. Et là-dedans, premier chef, il y a l'intégrisme religieux, qui n'a rien à voir avec être contre la religion, l'intégrisme religieux, et encore toute la question de la prostitution qui, moi, m'apparaît extrêmement importante. Donc, c'est là mes réflexions.
Mais sur la question du féminisme, alors, je surtout pas à tout prix vous coller l'étiquette de conservatrice, mais je vais le faire une dernière fois néanmoins. Votre féminisme, quand on vous lit, alors, il y a deux dimensions, me semble-t-il. D'abord et en tout, c'est un féminisme assez classique qui reconnaît, audace parmi les audaces, que les hommes et les femmes existent et ne sont pas interchangeables. Mm-hmm. C'est-à-dire la femme d'époque, on n'est pas dans la théorie du genre du tout. Mm-hmm. Là. Bon. Ensuite, il est très québécois. Et je m'explique, c'est-à-dire c'est un féminisme ancré dans notre histoire, ancré dans une réflexion sur la condition de la femme dans l'histoire québécoise. Et de ce point de vue, encore une fois, c'est un féminisme qui, je ne sais pas s'il est incompatible, mais à tout le moins, il est à bonne distance du féminisme anglo-saxon qui se développe dans certains campus américains et qui, lui, est ancré dans une toute autre tradition religieuse, politique, civilisationnelle et ainsi de suite. Et de ce point de vue, est-ce qu'on n'a pas assisté ces dernières années au Québec à un conflit des féminismes? Au moment de la Charte des valeurs, c'était, me semble-t-il, très visible. D'un côté, les Jeannettes, qui étaient les héritières, oui, à certains, oui, égards, oui, de ce féminisme québécois qui a la conscience de la du sort de la femme qui a dû s'émanciper d'une culture traditionnelle, ainsi de suite. Et de l'autre côté, ce féminisme qui, au nom, justement, on le disait, de l'émancipation radicale de l'individu, peut en venir embrasser les signes religieux ostentatoires qui marquent une ségrégation féminine, mais au nom d'une forme d'anti-occidentalisme, ainsi de suite, ils sont, oui, embrassés. En fait, le féminisme, de ce point de vue, n'est plus que le masque du multiculturalisme. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui au Québec un conflit des féminismes, oui, dans la vie publique?
Oui, oui, complètement, complètement. Et je cherche encore à quel moment il s'est produit, parce que moi...
C'est tout récent, me semble-t-il.
Oui, mais ce virage-là, je l'ai manqué. C'est-à-dire que, bon, c'est très intéressant parce que, justement, en revisitant les éditoriaux, je raconte dans mon livre que en 2006. Donc, il y a un procès pour terrorisme dans la région de Toronto, à Brampton. Et pour la première fois, je vois, donc ce sont des jeunes hommes qui sont accusés. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup musulmans égale terroristes. Donc, je fais un petit éditorial pour dire, mais, bon, attention aux amalgames quand même, on va laisser la justice aller. Mais je note quand même qu'à mon petit écran, je viens de voir arriver trois femmes en burqa qui se dirigent vers le palais de justice pour la comparution, visiblement, des femmes de la famille de ces jeunes hommes-là. C'est la première fois que je vois ça. Et j'écris, en même temps, faut faire attention aux amalgames, mais aussi faut faire attention aux gens qui provoquent, en nous amenant des figures incompatibles avec notre démocratie. Je me fais applaudir pour cet éditorial-là, donc je ne doute même pas, je veux dire, c'est clair pour moi que le Canada tout entier pense comme moi, là. Tu sais, c'est clair, et les réactions que j'ai à ça ne me permettent pas de croire le contraire. Or, on va venir, il y aura la commission Bouchard-Taylor, il y aura la Charte des valeurs, et là, on va se rendre compte qu'au Québec même, il y a des femmes en burqa à la garderie, à l'école, j'en croise dans l'autobus, je prends le 80 avenue du Parc, j'en croise, parce qu'on nous dit toujours que ça n'existe pas, c'est dans la tête.
En fait, on nous dit que ça n'existe pas, et quand ça arrive, on nous dit que c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est ça. Alors, et là, je continue, moi, de m'insurger, convaincue que tout le monde est encore comme moi. Et là, non! Au prétexte que madame est gentille, il faut plus s'insurger contre un symbole comme celui-là. Et c'est ça que je me dis, mais là, moi, j'ai manqué quelque chose, là. Parce que c'est les gens qui me disent ça, c'est des gens que j'estime progressistes, que j'estime, en fait. Et je comprends pas pourquoi, tout à coup, ma position de 2006, qui change pas, devient honnie dans l'espace public, signe d'une intolérance.
Alors, je vous pose la question. Tantôt, vous avez dit, ça veut pas dire qu'on passe à droite quand on pense comme vous pensez. La question que je vous poserais, mais pardonnez cette curiosité, mais qu'est-ce que ça voudrait dire passer à droite?
Ben,
qu'est-ce qui serait mal dans le... C'est une pure curiosité d'historien les idées.
OK, ben c'est parce que bon...
Quand vous dites passer à droite, on sent que c'est pas bien.
Non, c'est vrai parce que moi, il y a des valeurs de gauche, de partage, de collectivité. Je le vois comme ça, de principe aussi, de principe d'avancement social pour tous et toutes. Je trouve qu'il y a des principes, je crois, avec la gauche, qui dépassent le triomphe individuel.
D'accord.
Bon, je pense ça, mais là vous me troublez parce que je ne sais plus si c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'injuste pour des grandes batailles qui ont été faites dans l'histoire du Québec et qui viennent tout à coup se buter à il faut se comprendre les uns les autres. J'ai un blog à Châtelaine et la semaine passée, j'ai écrit sur cette fameuse question de burqa nuqab parce qu'il y avait eu l'adoption du projet de loi 62. Et je dis que au Québec, le libre choix pour les femmes, on leur a empêché le libre choix à d'autres occasions. Au nom de l'égalité, et on a bien fait, par exemple, le fait de garder ou pas son nom de famille quand on se marie. Au Québec, veux pas, t'es obligé de garder ton nom. Tu peux socialement, dans tes parties, te faire appeler du nom de ton tendre époux, comme tu peux porter ton voile chez toi ou avec tes amis, tu feras bien ce que tu veux. Mais qu'il arrive un moment où, pour faire affaire avec l'État, ce n'est plus « tu dois garder ton identité ». Ça a jamais posé problème, ça. Ça a été accepté, mais c'est une victoire pour les femmes, ça, tout comme le partage du patrimoine. Donc, on a enlevé le libre choix. C'est pas vrai que le libre choix est toujours ce qu'il faut faire, tout comme avec la loi 101. Il y a des parallèles intéressants. Bon, on a enlevé le libre choix parce qu'on pensait que collectivement, si on ne sévissait pas contre le libre choix, on y perdait notre identité. Et puis là, aujourd'hui, tout à coup, c'est le libre choix qui doit pouvoir s'exprimer partout. Tout, Je dis non.
Mais est-ce que c'est pas la chose la plus difficile à penser aujourd'hui, l'idée d'une contrainte collective légitime et assumée?
Oui, 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 tout à fait. Et ça nous renvoie au nous, parce que si on décide de mettre une contrainte collective, c'est parce qu'on a, nous avons quelque chose en commun que nous pouvons partager et faire un choix. Et qu'est-ce qu'est devenu le nous? Qu'est devenu le nous des femmes? Qu'est devenu le nous de fait français? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est-à-dire que j'ai mes réponses individuelles, c'est affreux. Mais je me dis, pourquoi on n'est plus capable de se reconnaître dans quelque chose?
Sur la question du « nous », il y a une autre dimension du « nous » qui est très présente dans votre livre. Et en fait, depuis que je vous lis, j'ai toujours trouvé que c'était très présent dans votre travail. Et vous l'avez même évoqué tantôt. C'est pas la question des femmes cette fois-là, c'est la question du patrimoine religieux.
Oui,
il y a une
dimension
qui est très... Alors, quand on vous lit, et ça ressort particulièrement du bouquin... Certains, quelquefois, même chez les nationalistes, quelquefois, ils aiment le Québec de manière très abstraite. C'est-à-dire, ils aiment presque de manière jacobine. Et vous aimez le Québec, vous, dans ses paysages, dans ses, dans ses territoires, dans son patrimoine architectural aussi, dans ses églises.
Oui, oui, oui.
Et à travers la question du patrimoine religieux, vous connectez même au Québec d'avant 1960, dont on ne sait jamais trop que faire.
Oui.
Vous ne réhabilitez moins ce Québec en tant que tel que vous réhabilitez le droit à la continuité, d'une certaine manière.
Ah, ça,
Et la présence, je suis curieux de vous entendre sur quelle place joue dans votre réflexion la question du patrimoine religieux. On dirait que c'est pour vous, c'est une manière d'appréhender de manière presque charnelle et dans sa profondeur historique la condition québécoise.
Oui, parce que je me rattache beaucoup à ce qu'était la vie réelle des Québécois. On parle beaucoup de la coupure entre l'élite et le peuple. Elle existe, cette coupure-là, mais dans la vie du vrai monde, même s'il le faisait par folklorisme, par rituel, par amour des fêtes, par exemple, ce qu'on trouve dans le... On a parlé de Bienvenue au pays de la vie ordinaire de M. Bellil, il fait état de ça. Reste que ça faisait partie de leur quotidien de fréquenter l'Église, d'en fréquenter les rites, d'en avoir des objets religieux chez eux.
C'était la part de beauté du monde, quelquefois, pour eux.
Oui, ça avait un sens. Ça pouvait avoir même un sens extrêmement superficiel de la communauté. Nous étions tous ensemble. Ou évidemment un sens profond de la foi. Ça là-dessus, on peut débattre. Mais la réalité de décider d'avoir une croix de chemin, la réalité de décider que notre lieu de rassemblement collectif sera dans une église, le repère, il y a eu évidemment des religieux abusifs, on le sait, mais il y a aussi des religieux qui ont été très intéressants. Et ça, je trouve qu'il faut pas ignorer ça et en garder des traces parce que ça a eu une signification. Moi, je crois beaucoup à la signification historique de toute cette continuité de ce qu'on a été. La religion, elle arrive, elle est là au départ, peut-être pas très profonde, ils étaient peut-être très très bons vivants, les curés qui sont venus, je sais pas, mais ils étaient là, ils ont accompagné, ils ont fait des erreurs effrayantes, je l'ai dit dans le livre, tout le rapport à l'école, bon, mais même des gens comme Papineau qui luttait pour un certain républicanisme, restaient des gens qui avaient quand même un rapport avec le religieux. Moi, je trouve que c'est pas... J'ai pas de malaise avec ça.
Non,
et puis, en plus que ça, c'est qu'il y a tellement des trucs intéressants. Voyez, bon, au Québec, on en parle moins maintenant, mais les religieuses québécoises étaient de grandes féministes. Mm-hmm. Elles ont financé des groupes de femmes. Elles
avaient un vrai pouvoir.
Oui, et puis elles ont enlevé le voile. Et puis, il y avait vraiment elles ont eu une importante réflexion féministe. Elles ont réclamé des catholiques d'ici. Des femmes ont réclamé des femmes prêtres. Bon, elles étaient au premier chef. Bravo, bravo, bravo. De la même façon, ce que je trouve intéressant qu'on oublie, ce sont tous ces catholiques de gauche.
Ah, c'est là que j'allais vous amener. Vous les évoquez dans le livre.
Oui.
Certains intellectuels de gauche, catholiques de gauche, vous pensez à Jacques Grandmaison, vous en évoquez d'autres.
Oui,
qui ont joué un grand rôle, mais on ne les voit plus comme ils se voyaient eux-mêmes, c'est-à-dire comme catholiques progressistes et ainsi de suite.
C'est ça, exactement. Et ça, je me dis, c'est voilà une part de notre histoire qu'on connaît mal. On peut pas comprendre le militantisme de la Révolution tranquille et des gens de gauche si on mesure pas toute leur éducation catholique qui a porté ça, toute leur croyance, entre une certaine façon de fonctionner en collectivité et d'avoir un Québec un peu différent du mercantilisme associé à l'univers anglo-saxon. Toute leur idée de survivance est aussi portée par ça. Il peut y avoir là-dedans des gens qui ont arrêté de croire. On parle ici d'une culture religieuse qui a marqué le Québec. J'animais la semaine dernière une journée sur le patrimoine religieux. Je leur racontais que moi, dans la maison de mes grands-parents, avec mes cantiques que j'ai acheté, je viens d'une famille qui était très croyante et qui donc il y a des crucifix dans toutes les pièces et puis des médailles cachées puis des sacrétaires exposés. Et j'ai dû, face à mes enfants, et là j'ai trouvé ça intéressant parce que je me pose moi-même les questions, toute la question de la transmission, parce que moi mes enfants n'ont pas été élevés dans un univers religieux. Alors moi dans cette maison-là, tous ces signes-là sont très intégrés dans l'histoire et l'âme de la maison. J'y vois pas de problème. Mes enfants, eux, trouvent que, bon mon Dieu, c'est un... Ben, pas tant ce que c'est, ils savaient quand même, mais ils trouvaient que c'était trop. Alors donc, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, mais ça me posait aussi la question, est-ce que mes enfants, est-ce que je n'ai pas failli dans mon idée de transmission, de leur faire comprendre pourquoi ces signes-là sont importants? Alors, voyez, même moi, qui vois là une continuité historique, j'ai de la misère dans mon côté modèle.
Si je peux me permettre, ça me fait penser à une formule de Benoît XVI qui disait « On peut pendant un temps transmettre la culture qui vient de la foi sans la foi, mais durablement la culture qui vient de la foi détachée trop longtemps de ses sources religieuses ou spirituelles se folklorise et on trouve que c'est de plus en plus difficile à défendre. »
Ça, c'est vrai. Puis en même temps, la foi, vous savez, ça se commande pas.
Oui, ça se décrète pas.
Ça se décrète pas. Bon, ça, on l'a plus, mais on doit quand même arriver à pouvoir, mais l'enjeu est énorme, de garder ça vivant, un peu comme, et là, je reviens au féminisme, comment faire comprendre aux jeunes femmes qui sont pleines de bons sentiments, le point n'est pas là, mais que de faire attention aux bons sentiments et qu'il est légitime, à un moment donné, de s'en tenir à des principes et de voir une lutte historique, qu'est-ce qu'elle a signifié et qu'il faut pas qu'elle soit pervertie au fil du temps. Je trouve que c'est des enjeux difficiles. Difficiles et qui viennent me troubler parce que ça me touche personnellement. J'ai des enfants, je fréquente beaucoup des milieux de jeunes et puis j'ai comme pas le goût d'avoir l'impression de leur parler chinois et qu'elle me parle chinois. Je veux garder un lien pour communiquer avec elle, mais je trouve ça de plus en plus difficile. Donc, on revient, on tourne en rond, hein, parce que c'est quoi le nous?
Alors, il nous reste environ 5 minutes, un peu moins, et j'aimerais vous entendre sur une question qui est votre métier, tout simplement.
Oui.
Vous avez hésité, vous êtes encore journaliste, vous avez une manière de pratiquer le journalisme qui est particulière, c'est-à-dire vous enfoncez moins dans le détail du quotidien au jour le jour, la chronique politique collée vraiment au presque on dit un espèce de commentaire du quotidien qui relève du commérage, vous essayez de dégager les enjeux. Et vous avez même, puis on le voit dans le livre, vous accordez une place aux intellectuels dans vos chroniques. Vous parlez par exemple de Thierry Hensch, vous avez quelques autres, Laurent-Michel Vacher, des intellectuels qui comptaient dans la vie québécoise. Vous notez que le Québec n'a pas le même rapport que la France aux intellectuels dans l'espace public. Il n'en demeure pas moins que vous avez cherché à leur faire une place lorsque vous étiez au devoir et même quand vous parlez aujourd'hui dans la vie publique. Est-ce que vous croyez que le journalisme québécois est un journalisme ouvert, sans mauvais jeu de mots, à la vie des idées, à la vie des idées dans l'espace public, ou est-ce que, d'une certaine manière, ça dépend seulement de la volonté de quelques personnes de faire vivre ça, qui ont le courage? Concrètement, je pense, quand une Marie-France Bazot est présente à la télévision, il y a de la place pour les intellectuels, les écrivains, les essayistes. Quand elle n'y est plus, plus personne n'en
exactement,
parle, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a, autrement dit, est-ce qu'on est incapable de faire vivre publiquement une vie des idées au cœur de l'espace public plutôt qu'ailleurs et pas seulement dans les marges?
Ouais, moi je vous dirais que ça témoigne encore là de l'américanisation de notre société, du détachement de nos sources françaises. Je pense qu'effectivement, comme vous dites, ça tient à des personnes à qui on donne de moins en moins d'espace. Les dirigeants des médias ne sont pas du tout sensibles à ça. Alors si toi tu lui accordes de l'importance, ça va parce que bon, il y a personne qui écrit nos chroniques à notre place. Mais c'est pas recherché. Et en fait, ça revient à la formule de Gilles Courtemanche que je cite dans un éditorial repris dans mon recueil qui dit peu commenter à la télé les personnes qui passent déjà à la télé. Ouais. Ce qui fait que notre univers de commentaires se rétrécit de plus en plus à des comédiens, des humoristes. Et ces gens intellectuels, on ne le fait plus de place. Et c'est pas vrai que ces gens... Parce que j'ai été recherchiste en télé, on cherche des gens qui sont capables de communiquer vite. Et puis bon, mais il y a des intellectuels là, qui sont capables, c'est pas le point. Là. Sauf qu'on veut... On limite notre... Maintenant, une personnalité, c'est quelqu'un qui fait du showbiz. Même plus du milieu artistique, c'est du showbiz. Quand Radio-Canada, il y a un an ou deux, faisait ses grandes séries, une heure d'entretien à la télé avec des personnalités du Québec, ben, il y avait que des comédiens là-dedans et des chanteurs. Il y en avait pas des intellectuels on peut même être des intellectuels médiatisés, là, c'est pas grave, mais ils n'ont plus de place. Je trouve ça tragique.
Mais vous notez, cela dit, qu'il fut un temps, ça se calcule pas en de nombreuses décennies, mais quelques-unes, où il y avait néanmoins le souci de faire une place. On peut penser aux émissions que faisait Denise Bombardier.
Oui.
Vous évoquez, des entretiens avec Jacques Grandmaison qui a déjà eu une heure. Autrement dit, est-ce qu'il y a encore un désir, vous croyez, dans la population d'avoir une vie publique qui intégrerait davantage la vie des idées?
Oui, je le crois.
Pour terminer sur cette question.
Je le crois et je pense que le problème, c'est que les dirigeants des médias sont complètement déconnectés de ce que les gens veulent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a un... Je ne dis pas ça ne ferait pas un million de codes d'écoute, mais il y a un créneau pour ça, j'en suis convaincue.
Alors, José Boileau, c'était un immense plaisir de vous avoir aujourd'hui à La Vie des idées. Et nous nous retrouvons, chers amis, la semaine prochaine pour un autre épisode de cette émission consacrée au grand débat qui traverse notre société. José Boileau, merci.
Merci beaucoup.